J'aimerais lire quelques versets des Actes chapitre 7. Livre des Actes, chapitre 7. Verset 54. Actes 7, 54. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, et ayant ses yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles et d'un commun accord se précipitèrent sur lui. Et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Jusqu'ici. J'aimerais juste placer devant vous trois pensées en relation avec ce passage. La première, c'est la situation d'Étienne que nous avons lu, dont nous avons lu. La deuxième, c'est la pensée des cieux ouverts. Et la troisième, c'est la question, qu'est-ce que cela veut dire pratiquement pour nous en tant que croyants aujourd'hui? Rapidement, vous connaissez bien la situation d'Étienne ici. Il était bien sûr un des diacres, si on veut dire, dans le chapitre 6, qui avait reçu une tâche. Mais ici, dans le chapitre 7, il est plutôt employé en tant que docteur. Il présente d'une façon remarquable l'histoire du peuple d'Israël. Et en faisant cela, ils montrent leur culpabilité. La situation, c'était, si vous regardez juste le dernier verset du chapitre 6, il l'avait accusé, verset 14, « Nous l'avons entendu dire que ce Jésus, le Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. » Alors ça, c'était l'accusation contre Étienne. Il a enseigné cela. Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. Alors à ce moment-là, le sacrificateur, souverain sacrificateur, pose la question, chapitre 7, verset 1er, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Maintenant, Étienne répond à cela et il montre que à chaque reprise, quand Dieu leur avait envoyé un serviteur, il l'avait rejeté, il avait agi contre Dieu, contre son esprit et contre ceux qu'il avait envoyés. Et le point culminant, c'était qu'à la fin, ils ont même crucifié le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Alors, verset 51, Jean de Col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Alors, c'est là où nous avons commencé. Les gens qui écoutent maintenant, ils sont pleins de rage contre Étienne. Et il y a deux traits d'Étienne qui me touchent beaucoup, qui m'impressionnent beaucoup. Le premier, c'est qu'il est parfaitement calme dans cette situation. Et le deuxième, c'est qu'il est transformé. Il est transformé de façon qu'il devient très très semblable à son maître, le Seigneur Jésus. Si nous regardons juste rapidement ces deux choses, il est confronté par ces gens pleins de rage. Puis verset 55, mais lui étant plein de l'Esprit Saint et ayant les yeux attachés sur le ciel. Ici, dans un mot, nous trouvons le secret. C'est le secret pour ces deux traits, pour le fait qu'il est tellement calme et pour la transformation qui a lieu. La raison pour les deux, c'est la direction de son regard. Alors, peut-être vous dites, mais un homme qui regarde vers le ciel, il est utile pour rien sur la terre. Il ne voit pas les choses qui nous entourent. Et un regard vers le ciel, c'est la dernière chose qui nous peut être utile. Qui peut nous être utile. Mais on voit le contraire. Il dit dans le verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et maintenant, la situation devient de plus en plus sauvage et violente. Ils crient en haute voix. Ils agissent même d'une façon très irraisonnable. Ils bouchent les oreilles, alors ils ne veulent pas entendre. Et d'un commun accord, ils se précipitèrent sur lui. Alors, ils le poussent hors de la ville et ils commencent à lapider Étienne. Si jamais il y a une situation pour, qui peut nous amener dans la panique, c'est cette situation-ci. Il est entouré par une foule en rage qui commence déjà à le lapider. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. D'abord, il prie, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je ne vois aucun signe de panique. Il est complètement calme, même confronté par les pierres qui sont déjà lancées vers lui. Seigneur, reçois mon esprit. En pleine confiance dans son Seigneur, il exprime cette prière. Deuxième point, verset 60, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors, la deuxième requête qu'il exprime, c'est une prière en faveur de ses ennemis. Et ces deux points soulèvent une question très difficile. Cette question, c'est comment peut un être humain qui a des émotions comme nous, comment il peut être si calme et si semblable à son Seigneur dans une crise absolue comme celle dans laquelle se trouve Étienne. D'où il tire cette force. Je crois que nous voyons déjà que cette question de regarder vers les cieux ouverts, c'est en fait une question très très pratique qui touche absolument la terre, notre vie ici-bas, par terre. Mais avant de parler de cela un peu plus, j'aimerais mentionner ce deuxième point, les cieux ouverts. Si vous regardez un peu ce sujet à travers la Bible, c'est très intéressant. Dans l'Ancien Testament, on ne lit pas grand-chose des cieux ouverts. La première occasion dont je me souviens, c'est en Genèse 7, où il y a les fenêtres du ciel qui s'ouvrent, et c'est pour amener le déluge, pour le jugement des hommes et de leurs péchés. Et dans un sens, c'est ce que l'homme a mérité, le jugement de Dieu. Il n'a rien mérité du ciel que ce jugement. Mais il y a quelques autres instants. En Deutéronome 28, Dieu dit, en fait, je vais vous ouvrir les fenêtres des cieux en bénédiction. Je vous donnerai la pluie, verset 12, je crois. Mais ce chapitre commence par une condition. Il dit, si vous écoutez bien ma parole, si vous allez obéir, je vous donnerai toutes ces bénédictions. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a encore une mention des fenêtres des cieux, mais c'est en fait en forme de moquerie. Vous vous souvenez, Élisée, 2 Rois 7, il y a ce capitaine qui dit, quoi, il y aura du pain demain? C'est impossible. Tout le monde mangera. Il dit, mais comment? Est-ce que Dieu va ouvrir les fenêtres des cieux? Et Élisée dit, mais oui, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Il y a peut-être encore deux mentions dont je me souviens. Il y a une dans le dernier livre, dans Malachie, où il dit, si vous mettez vos vies en ordre, si vous donnez la dîme, etc., vous allez voir que Dieu va ouvrir les fenêtres des cieux, il va vous bénir. Et peut-être il y a une occasion où il y a les fenêtres ouvertes des cieux en grâce, c'est dans le psaume 78, où Dieu dit, j'ai ouvert les fenêtres des cieux et je vous ai donné la main. Et vous voyez, dans tous ces instants, toutes ces situations, il n'y a pas un ciel ouvert vraiment. Il est toujours question des fenêtres qui donnent soit un jugement, soit une bénédiction, mais à condition d'obéissance. Sauf cette mention d'ensemble, psaume 78, où il y a des fenêtres ouvertes et il y a une provision de grâce de la manne, une image du Seigneur Jésus qui est devenu homme et venu sur la terre. Je connais seulement un passage dans l'Ancien Testament où il y a vraiment le ciel ouvert. Où il y avait un homme qui regardait dans le ciel. C'est en Ézéchiel, premier chapitre. Mais qu'est-ce qu'il voit, Ézéchiel, quand il regarde dans le ciel ouvert? Il regarde la splendeur de Dieu. Il voit des roues qui tournent. Il voit la gloire de Dieu qui se montrera dans le jugement, dans ses voies, qu'il marchera avec l'homme, avec la terre. Mais il y a quelque chose que personne n'a vu dans l'Ancien Testament, mais que Étienne a vu. C'était un ciel ouvert et il y avait un homme dans le ciel. Il y avait un homme glorifié dans le ciel qui était capable de transformer Étienne et sa vie et de lui donner une force incroyable dans cette crise. Alors, une pensée maintenant sur les cieux ouverts dans le Nouveau Testament. Vous voyez, il y a un grand changement. On a parlé de l'Ancien Testament, mais maintenant dans le Nouveau Testament, dans un sens, le Nouveau Testament commence presque avec les cieux ouverts. Quand le Seigneur Jésus était baptisé, les cieux s'ouvrent, et il y a une voix, « Voici mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai trouvé mon plaisir. » Alors là, il y avait un homme sur la terre qui plaisait tellement à Dieu que Dieu ne pouvait plus rester calme. Les cieux devaient souffrir pour exprimer son plaisir dans son Fils bien-aimé. Il y a encore trois passages qu'on n'a pas mentionnés. Peut-être un peu dans l'ordre chronologique. Il y a, en acte 10, il y a les cieux ouverts, il y a cette voile, on dit, qui descend, et Pierre voit les animaux impurs pour lui montrer, pour lui donner une leçon très précieuse, que l'évangile n'est pas seulement pour les juifs, mais pour tous. Alors, pour la portée universelle de l'évangile. Après, il y aura encore une fois les cieux ouverts, ou le ciel ouvert, en Apocalypse 19, et je vis le ciel ouvert, et il y avait quelqu'un qui arrivait sur un cheval blanc, suivi par les armées du ciel. C'est quand le Seigneur apparaît en gloire pour prendre possession de cette terre. Et après cela, il y a encore une mention des cieux ouverts. C'est dans Jean 1 à la fin où le Seigneur dit « Vous allez voir les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Dans le millénium, il y aura vraiment une relation entre le ciel et la terre. Et la base, c'est le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus. Mais vous voyez, entre ces deux, surtout entre Matthieu 3, le baptême du Seigneur, dans le passé, et Apocalypse 19, quand le Seigneur revient, entre ces deux, il y a Acte 7. Il y a la vue dans le ciel ouvert qui donne cette force et transformation à Étienne. Et c'est mon troisième point maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous chrétiens? Pour nous chrétiens, cet épisode de Acte 7, les cieux ouverts et Étienne contemplant le Fils de l'homme à la droite de Dieu, c'est ce qui est typique pour la période chrétienne dans laquelle nous vivons. Étienne, bien sûr, il regardait avec ses yeux naturels et il a dû voir le Seigneur Jésus debout, d'ailleurs, parce qu'il aurait encore pu revenir pour le peuple juif s'ils avaient repenti, mais il voit à la droite de Dieu cette place d'honneur. Et c'était cela qui donnait cette force à Étienne dans son épreuve. Pourquoi? Dans un sens, c'est très simple. Il voit les pierres qui sont lancées vers lui. Mais il sait très bien, la chose la pire que cette pierre peut faire avec moi, c'est de me transporter directement à l'endroit où est ce Fils de l'homme à la droite de Dieu, et je serai auprès de lui. Et je crois que c'est ça la solution. C'est ça qui était la force que Étienne avait. Et aussi, nous allons voir peut-être dans un instant, c'était ce regard vers le ciel qui opérait cette transformation, qui faisait que Étienne ressemblait beaucoup à son Sauveur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur la croix? Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, il dit quelque chose de très semblable, hein? Ne leur impute pas ce péché. Avec la deuxième requête, il y a une petite différence. Le Seigneur a pu dire, je remets mon esprit à toi. Alors cela, il ne pouvait pas dire, Étienne, mais il pouvait dire, reçois mon esprit. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les parallèles. C'est que Étienne ressemblait tellement à son Sauveur. La raison, c'était qu'il avait les yeux fixés sur lui. Alors, avant de parler du troisième point, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Il y a encore un petit secret dans ce passage. Je crois que nous allons tous avouer qu'il y a des jours où nous avons les yeux sur le Seigneur dans le ciel, relativement parlé au moins. Il y a des jours où cela marche moins. Et pourquoi? Il y a cette petite réponse ici dans le texte, verset 55. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, oui, plein de l'Esprit Saint. Vous voyez, un croyant a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans chaque vrai croyant. Mais il dit dans Éphésiens 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Alors là, c'est un impératif. C'est quelque chose que nous devons faire. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Il y en a qui disent « Ah, il faut prier de le recevoir. » Il y en a d'autres qui disent « Il faut des expériences. » Il faut une expérience où on remarque que l'Esprit vient de l'extérieur en nous. Je ne crois pas que c'est ça. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de la place. Il faut mettre dehors ce qui empêche le Saint-Esprit. Pour Étienne, il ne dit même pas rempli. Il dit plein. Si vous remplissez un verre, c'est un processus, ça augmente. Mais si le verre est plein, c'est plein, c'est le point final. On ne peut plus ajouter. Et Étienne, il était dans cet état. L'Esprit Saint pouvait agir complètement en lui. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il dirige ses yeux vers l'homme dans la gloire. Alors, dans les moments qui restent, j'aimerais, avec l'aide du Seigneur, montrer comment c'est pratique. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, dans nos jours? Nous devons aller au travail, faire le ménage, vivre en famille. Et comment on peut regarder dans le ciel? Comment ça aide? Et surtout, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? J'avoue que c'est quelque chose qui m'a frappé en tant que jeune croyant. J'ai eu des difficultés longtemps. Colossiens 3. Vous connaissez très bien. Colossiens 3. Premier verset, si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut. Et moi, j'étais là dans mon banc comme jeune croyant et j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il y a en haut? Oui, il y a Christ, mais qu'est-ce que je vois concrètement? Si je regarde en haut et je regarde Christ. Alors peut-être nous pouvons considérer quelques situations pratiques dans lesquelles le regard vers le ciel, le regard vers l'homme dans la gloire, nous est une grande aide. Prenons d'abord, premier cas, Prenons un jeune croyant qui a des doutes, qui ne réalise pas qu'il a la paix avec Dieu, qui n'est pas très sûr que Dieu l'a pleinement accepté. Et maintenant, il commence à regarder dans le ciel. Qu'est-ce qu'il va voir dans le ciel? Je lis de Romains 4, dernier verset. Il parle de Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Alors, il regarde dans le ciel. Il voit le Seigneur Jésus est là et il est vivant. Alors, s'il est vivant, ça veut dire que Dieu l'a ressuscité. Mais si Dieu l'a ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela implique directement que Dieu a accepté son œuvre sur la croix. Quelqu'un pourrait vous demander, qu'est-ce que vous faites de vos péchés? Et vous dites, mais Dieu m'a pardonné. Mais maintenant, la personne vous demande, mais comment vous savez que Dieu vous a pardonné? Et c'est là que vous montrez au ciel et vous dites, il a été ressuscité pour notre justification. Le fait qu'il est vivant au ciel est la démonstration que Dieu a été satisfait de son œuvre. Et la conséquence immédiate, ayant donc été justifié sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et il y a 11 versets qui suivent, qui parle des conséquences merveilleuses de cette paix avec Dieu, cette justification. Prenons un autre exemple. Il y a maintenant un jeune croyant qui a saisi cela. Dieu a accepté l'œuvre du Seigneur. Il a même accepté le jeune croyant. Mais il découvre qu'il y a quelque chose en lui, de mauvais désirs, de mauvaises pensées, des actions qui ne plaisent pas au Seigneur. Et il a voulu arrêter et c'est revenu et revenu. Alors il a découvert, comme l'homme en Romains 7, j'ai encore la chair en moi. Alors, maintenant il a un problème. Si j'ai la chair en moi, comment Dieu peut être satisfait de moi? Est-ce que Dieu ne doit pas me juger si cette chair habite encore en moi? Alors la réponse est donnée par le regard dans le ciel. Qu'est-ce qu'on voit là? Romains 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Vous voyez, Christ est là à la droite de Dieu. C'est la preuve de son œuvre accomplie. Et Dieu dit, il nous voit en lui. C'est vrai que nous avons encore la vieille nature, mais Dieu ne va pas nous juger pour la vieille nature, parce que la vieille nature a déjà été jugée. C'est le verset 3. Il a condamné le péché dans la chair et quand? Dans le Seigneur Jésus sur la croix. Prenons un exemple peut-être plus pratique, plus un exemple de chaque jour. Disons, il y a un croyant qui est dans une phase difficile de sa vie. Peut-être une maladie, peut-être un problème de travail, quelque chose qu'il ne sait pas résoudre. Alors, qu'est-ce qui peut l'aider? Normalement, on dirait, si on a un problème sur la terre, il faut se connaître, il faut avoir les informations sur les choses qui sont sur la terre, sur les maladies, sur les professions, sur les possibilités, pour résoudre le problème. Alors comment le regard dans le ciel peut nous aider.
Lisons un verset dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté de toutes choses comme nous à part le péché. Alors, un souverain sacrificateur qui peut sympathiser.
Ce croyant qui a ce grave problème dans sa vie, s'il arrive par l'aide du Saint-Esprit de regarder dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il a un souverain sacrificateur. Quelqu'un qui peut, comme il dit dans le chapitre 2, secourir, verset 18, et quelqu'un qui peut sympathiser. Quelqu'un qui dit, je comprends tes problèmes. J'étais sur cette terre en tant qu'homme. J'ai vécu toutes les difficultés, la faim, la soif, la fatigue, être entouré par des maladies et tout cela. Et moi, je peux sympathiser avec toi. Je prends un quatrième cas, et on peut rester dans ce verset pour un instant. Peut-être il y a un croyant qui a une question. Il faut prendre une décision. Il n'est pas sûr. Peut-être le choix d'un conjoint, peut-être un choix professionnel, peut-être une autre décision. Et il dit, mais je ne sais pas que faire, je ne suis pas sûr. Alors, comment ça l'aide de regarder dans le ciel? Je reste dans ce verset. Nous avons un souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il avait, le souverain sacrificateur? Sur sa, comment on dit, poitrine? Ouais. Il avait les 12 pierres. Pectoral. Oui, le pectoral. Et cela veut dire qu'il porte les siens sur son cœur. Mais lié avec le pectoral, il y avait autre chose. Il y avait quelque chose qui s'appelait les Urim et Thummim. Les lumières et perfections. On ne les voit jamais sur les images qu'on voit du souverain sacrificateur, parce que personne ne sait comment les dessiner. Qu'est-ce que c'était exactement ? Mais on sait pourquoi c'était utilisé. Esdras 2, par exemple, à la fin, il y a un exemple. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait un souverain sacrificateur qui a les Urim et Thummim, qui peut nous donner la volonté de Dieu. Et vous voyez, nous avons un souverain sacrificateur dans le ciel, même aujourd'hui, qui a les Urim et les Thummim, qui a les réponses à nos questions et qui aime à nous révéler ses pensées sur même les situations pratiques dans lesquelles nous nous trouvons. C'est un sujet absolument vaste. Je peux juste peut-être encore donner quelques exemples pour montrer cela. Pourquoi c'est tellement vaste d'ailleurs? Je suis convaincu que ce sujet est à la base de notre position chrétienne. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un chrétien? Peut-être vous dites, être un chrétien, ça veut dire on va dans le ciel un jour. On ne va pas dans l'enfer. Oui, c'est vrai. Mais Abraham, il sera dans le ciel, pas dans l'enfer. Et il n'était pas un chrétien. Moïse aussi. Alors, être un chrétien, ça doit encore être autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement être un chrétien? Être un chrétien, ça veut dire connaître l'homme dans la gloire et être lié avec lui. C'est ce que ni Moïse ni Abraham pouvaient dire. Je suis justifié parce que j'appartiens à cet homme glorifié à la droite de Dieu. Mais nous pouvons dire cela. Et j'aimerais montrer encore juste quelques petits exemples pour montrer qu'est-ce que cela veut dire dans la vie concrètement. Peut-être dans 2 Corinthiens 3, je lis juste le dernier verset, 2 Corinthiens 3, 18. Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Alors ici, nous avons un croyant qui pose la question suivante. Comment je peux vivre d'une façon qui plaît au Seigneur Jésus? Et dans ce chapitre, il dit, bon, il y a deux voies. Il y a deux services. Le premier service, c'est le service de la loi, et c'est un service de la mort qui peut seulement condamner. Le deuxième service, il s'appelle le service de la nouvelle alliance, ça veut dire le service de la grâce. Et ça, c'est le service qui ne condamne pas, qui n'a pas seulement un début avec un peu de gloire comme avec Moïse, mais c'est un service qui justifie. C'est un service qui reste en gloire, qui donne une gloire permanente. Et comment fonctionne ce service? C'est bien sûr le service de l'évangile de la grâce. Mais quant à notre vie pratique, ce dernier verset nous donne la réponse. Comment nos vies sont formées et changées? Ce n'est justement pas en disant « je veux absolument faire ceci et cela et je peux le faire et je vais plaire au Seigneur ». Ça ne va pas marcher. Mais l'Esprit fait autre chose, comme avec Étienne, exactement comme avec Étienne. Il nous occupe avec l'homme dans la gloire. Et quand nous voyons l'homme dans la gloire, nous sommes changés. Nous ne le faisons pas forcément pour être changés. Mais quand on s'occupe avec notre Sauveur ou avec notre souverain sacrificateur, avec celui qui a vaincu l'ennemi, cela réveille nos affections. Cela changera nos intentions, nos désirs. Et c'est ce qui fait que nos vies sont transformées, comme il dit ici. De la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Et je crois qu'Étienne est le meilleur exemple pour cela. Combien il est devenu semblable à son Sauveur. Galates 2, on pourrait penser à deux cas ici. Le premier cas, c'est quelqu'un qui souffre terriblement et qui est arrivé à un point où il se demande si le Seigneur même l'aime ou non. Le deuxième cas, c'est un croyant qui se pose la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est le but de ma vie? Est-ce que c'est la carrière professionnelle? Est-ce que c'est d'être connu dans le monde ou une partie? Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie? Alors, ces deux personnes, maintenant, regardent dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils verront? Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça décide les deux questions, non? Maintenant, il regarde dans le ciel et il ne dit pas seulement c'est le Fils de l'homme, mais il dit en fait, celui que je vois en tant qu'homme, bien sûr, il est en même temps le Fils de Dieu. Et il dit, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Cela nous rappelle cette parabole en Matthieu 13 de la perle précieuse, verset 45 je crois. Mais il y a deux différences intéressantes, peut-être même trois. Dans cette parabole, c'est un commerçant, c'est un spécialiste de perles qui connaît la matière. Mais ici, c'est le Fils de Dieu lui-même. En Matthieu 13, il donne tout ce qu'il a. Mais ici, il donne soi-même. Et en Matthieu 13, il le fait pour l'Église entière, la perle précieuse. Mais ici, le Seigneur paye le prix total juste pour moi. Il dit, s'il n'y avait eu aucun autre, juste toi, j'aurais donné moi-même pour toi. Alors, une personne qui regarde dans le ciel et qui voit le Fils de Dieu comme ça, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi, comment il peut dire, le Seigneur ne m'aime pas? Bien sûr, il s'est donné pour moi. Et comment il peut dire, je vais vivre pour autre chose que pour celui-là, pour le Fils de Dieu. Je mentionne juste rapidement Philippiens 1. Verset 23. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. Je suis convaincu que nous connaissons très bien ce verset. Mais ce qui est constaté dans ce verset est tellement étrange aux pensées naturelles. On le remarque tout de suite si on y réfléchit un peu. Hein. Si vous parlez aux gens qui vous entourent, qui sont confrontés d'une maladie sérieuse ou même de la mort, normalement ils diraient « je donnerai tout » pour vivre un peu plus longtemps. Et on comprend. Mais ici, on a un homme qui dit, en fait, si moi je pense à ce problème, mourir ou vivre, je ne sais pas que choisir, que décider, que prendre. Parce que les deux sont excellents. À vivre, c'est excellent, parce que je peux être utile un peu pour vous. Mais mourir, c'est encore plus excellent parce que je serai dans ce moment auprès du Seigneur. Des gens comme ça doivent être heureux, non? Des gens qui ont cette certitude que même s'ils doivent passer par la mort, ils seront directement auprès du Seigneur et c'est tellement meilleur qu'ils ne savent même pas que choisir. Je crois que cette attitude est aussi le résultat du regard dans le ciel. Comme Étienne, il dit, si cette pierre me frappe, mais je serai là, je serai dans sa présence, je serai chez lui. Et c'est fort meilleur. Mais il y avait autre chose qui s'est passé avec Paul. Étrange, chapitre 3, il parle de tous ces avantages qu'il a eu dans sa vie, dans son histoire. Et il conclut en disant, verset 8, « Et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte. » Quoi? Comment? Toutes ces choses excellentes? Oui. Comment il peut arriver à ce jugement? La réponse est juste là. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Il dit, si tu as vu quelque chose de cet homme dans la gloire, cela changera tes mesures, tes aspirations, tes buts, toutes les mesures d'évaluation que tu as. Il dit, ce que je pensais, ce que j'estimais comme précieux, maintenant je regarde comme perte. Parce que j'ai regardé dans le ciel. J'ai vu l'homme qui est tout ce qui compte maintenant, c'est vivre pour lui. J'aimerais revenir sur cette remarque que j'ai faite, que être chrétien, cela veut dire être lié avec cet homme dans le ciel. En Éphésiens 1, il dit du Seigneur Jésus que Dieu l'a fait, verset 20 à la fin, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors, c'est une prière. Mais dans cette prière, Paul exprime une pensée qui nous éclaire sur cette question, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Il dit, je prie pour que Dieu vous aide à comprendre trois choses. Et la troisième, c'est la force immense avec laquelle il a agi. Alors, quand est-ce que Dieu a agi avec une force immense? Peut-être vous dites, quand il a créé le monde. Oui, mais Paul, il dit non. Il y a une puissance plus grande. Quand il a pris un homme mort, il l'a ressuscité et il lui a donné une place au-dessus de toute autorité. C'est quelque chose que aucun pouvoir dans ce monde arrive à faire. On ne peut rien faire avec un homme mort. On ne peut pas lui donner la moindre autorité. Mais Dieu a pris le Christ qui était dans le tombeau et il l'a placé en tant qu'homme au-dessus de toutes les autorités qu'il y a. Et maintenant, il dit, la meilleure chose, je dirais, c'est que vous, vous êtes liés avec lui d'une façon organique. Vous êtes le corps de celui auquel Dieu a donné cette place élevée. On n'oserait pas dire la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Mais la parole de Dieu le dit. Peut-être parce que l'assemblée est le vase, est l'instrument par lequel l'amour et la gloire du Seigneur est démontré tout spécialement. Vous voyez, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est être un chrétien, hein, si vos collègues vous demandent qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, ils pensent toujours ça veut dire faire quelque chose, des rites, on peut dire, des tâches religieuses. Mais non, être chrétien, ça veut dire faire partir de ce corps de celui qui a reçu cette place élevée. On n'a pas le temps maintenant de parler de la deuxième prière. Ici, il dit, regardez la gloire dans laquelle se trouve cet homme. Et Dieu vous a lié avec lui. Mais dans la deuxième prière, il dit, et ça va plus profondément encore, il dit, regardez l'amour qui a voulu faire cela. Si Dieu a voulu lier des hommes comme nous, avec son Fils glorifié, avec le Seigneur glorifié, combien grand doit avoir été son amour. Je vais terminer juste en mentionnant encore deux aspects. Premier, c'est un croyant qui se pose la question, c'est une question très pratique, est-ce qu'il ne faut pas, si on veut être bon chrétien, est-ce qu'il ne faudrait pas influencer ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il ne faudrait pas au moins voter ou peut-être même prendre parti un peu plus dans les processus politiques? Alors, où est-ce qu'on trouve la réponse? Il y a des gens qui trouvent toutes sortes d'arguments, mais je donne juste une réponse qui a à faire avec l'homme dans la gloire. Hébreux 10, oui, Hébreux 10, verset 12. Ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Alors c'est simple, non? Si je regarde dans le ciel, qu'est-ce que je vois? Je vois le Seigneur qui a accompli l'œuvre, et qui maintenant est assis à la droite de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il dit, le moment où moi je vais transformer ce monde, où moi je vais régner dans ce monde, est futur. Et jusqu'à ce moment, je suis content de juste attendre. Alors si moi je suis à lui, qu'est-ce que je fais? J'attends. Je comprends que ce n'est pas le moment où le Seigneur prend les rênes et où il a son règne sur la terre, mais c'est le moment où nous rendons témoignage à l'homme dans la gloire qui a achevé cette œuvre. Et je mentionne juste le dernier que je voulais mentionner. Cela a à faire avec notre attente, notre espérance. Quel est notre espoir dans ce monde? Est-ce que c'est que le monde s'améliore? Est-ce que c'est que nous arrivons à préparer le royaume pour le Seigneur? Non, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est le Seigneur lui-même qui viendra et qui viendra nous chercher. Vous voyez, il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui se sont endormis en Christ, ils vont être ressuscités. Il y aura l'autre groupe, et l'autre groupe, c'est nous. Paul dit, nous les vivants. C'est très heureux parce que cela veut dire que rien ne doit intervenir avant. Cela peut arriver à chaque instant, à chaque moment, chaque jour. Mais aussi, c'est merveilleux pour une autre raison. Cela montre que nous avons été sauvés tellement que ce n'est même plus nécessaire que nous passions par la mort. C'est possible que le Seigneur vienne aujourd'hui et qu'il nous prenne. Et le résultat sera, je crois que c'est le verset 17 à la fin ou 18, et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. C'est le moment où nous ne sommes plus sur la terre en regardant vers le ciel ouvert, vers l'homme dans la gloire seulement, mais nous serons avec lui en goûtant pleinement la joie. Mais si c'est ça notre espoir, notre espérance, combien c'est précieux de vivre aujourd'hui de cette façon, déjà en relation avec le ciel, déjà les regards fixés sur lui. Dans nos vies, dans ma vie, souvent c'est très faible, mais que le Seigneur nous encourage par ses exemples de voir ce regard vers lui.